Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retour à l'antenne de votre magazine d'actualité internationale Culture Monde. En effet, vous avez quitté un tout petit peu précipitamment pour cause de confinement. C'est un immense plaisir de vous retrouver, chères auditrices, chers auditeurs. On est en capacité maintenant de vous proposer de nouvelles émissions en direct depuis la maison de la radio, avec des effectifs, il faut le dire, très réduits in situ, en mode confinement, comme on dit, c'est-à-dire avec des intervenants exclusivement par téléphone. Et pour réussir évidemment cette prouesse et préparer toutes ces émissions, toute l'équipe de Culture Monde est sur le pont. Benjamin Hu, Bertille Bourdon, Margot Leridon, Mélanie Chalandon qui fait son retour, sans oublier Lucas Lazo, et à la technique évidemment, sans qui on ne peut rien faire, Thibaut Nassimben. Des semaines maintenant, on répète à l'envi que le monde a changé, qu'il n'en sera plus jamais comme avant et qu'un nouveau monde est en train d'advenir. C'est précisément la question qui va nous intéresser cette semaine, à savoir essayer de comprendre l'impact de cette crise sanitaire sur les rapports de force géopolitique. Est-ce que ce virus rebat les cartes ? Ou est-ce que simplement il accélère des tendances qui étaient déjà à l'œuvre géopolitique ? Le monde de l'après-Covid, ça sera le titre de notre série cette semaine. Cette semaine, justement, nous parlerons de Chine, de multilatéralisme, mais aussi de conflits qui se poursuivent malgré la crise sanitaire, de la Libye au Yémen en passant par la Syrie. Mais pour commencer, restons en Europe, dont l'édifice s'est mis à rude épreuve avec cette nouvelle crise. Solidarité ou repli ? L'Europe au pied du mur, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Molti capi di Stato. De nombreux chefs d'État, d'Europe et d'ailleurs, ont exprimé un sentiment de solidarité avec l'Italie. Un soutien concret est venu de plusieurs États. Tous m'ont dit qu'ils avaient pris des décisions suite aux choix faits en Italie dans cette situation d'urgence. L'Union européenne, la Banque centrale et la Commission ont pris ces derniers jours des décisions financières et économiques importantes et positives, soutenues par le Parlement européen. Le Conseil des chefs de gouvernement ne s'est pas encore prononcé. On peut s'attendre à ce qu'il le fasse dans ces prochains jours. Nous avons besoin de nouvelles initiatives communes, surmontant les anciens schémas qui sont désormais hors de la réalité du drame que connaît notre continent. J'espère que tout le monde comprendra pleinement, avant qu'il ne soit trop tard, la gravité de la menace pour l'Europe. La solidarité n'est pas seulement requise par les valeurs de l'Union, elle est également dans l'intérêt commun.
Sergio Mattarella, lors d'une allocution, c'était en mars dernier, qui appelait à la solidarité européenne. Alors que l'Europe a entamé son déconfinement, nous allons tenter de tirer les premières leçons de la manière dont les pays membres et l'Union européenne ont géré cette crise de la Covid et regarder les risques politiques qui y sont associés. Comment les institutions européennes ont répondu à l'urgence ? Les réponses sont-elles à la hauteur ? Est-ce qu'on peut espérer que l'on s'accorde sur un endettement commun, un endettement partagé ? Est-ce que l'Union sortira renforcée ou au contraire affaiblie par les vieux démons du chacun pour soi qui n'ont pas tardé à ressurgir ? Dans quelle mesure le coronavirus va-t-il offrir une opportunité pour certains pouvoirs d'affirmer encore le populisme et l'autoritarisme ? On parlera ce matin de la Hongrie, de la Pologne, mais aussi de l'Espagne, de l'Allemagne, sans oublier évidemment l'Italie, le pays qui enregistre le bilan le plus lourd de toute l'Europe. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin d'abord Clémentine Forissier. Bonjour Clémentine Forissier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédactrice en chef de Contexte, le journal des politiques françaises et européennes. Également avec nous, Giuliano D'Ampoli. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment également d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, essayiste, vous avez été conseiller politique de Matteo Renzi, vous êtes évidemment italien et on aura l'occasion bien sûr de parler de l'Italie, Giuliano D'Ampoli. Alors d'abord, je vais commencer avec une première question très générale parce que des crises en Europe, on en a connu et on en a connu beaucoup et souvent. La crise financière de 2008, on a eu la crise des dettes publiques, on a eu plus récemment la crise de l'accueil des réfugiés. Et maintenant, on a la crise du Covid. Est-ce que c'est la crise de trop ? Jusqu'où est-ce que cette Union européenne vous paraît aujourd'hui menacée ? On va avoir le temps de détailler, mais une impression un peu générale. Clémentine Forissier.
Ce qui est sûr, c'est que je me souviens avoir discuté il y a peu de temps avec un conseiller diplomatique à qui je disais... vous pensiez que vous aviez tout connu depuis 10 ans en termes de crise, la crise financière, la crise de la dette souveraine, la crise migratoire, la crise du Brexit, parce que c'était quand même aussi...
Je l'avais oublié, celle-là, vous avez raison.
Oui. Et là, honnêtement, je pense que celle-ci surpasse toutes les autres, au point d'ailleurs, pour la petite histoire, que l'histoire du Brexit, qui nous occupait tous quand même beaucoup depuis quelques années, est devenue une brève au fin fond de nos journaux. Je caricature un peu, mais c'est presque ça. Non, celle-ci, elle est quand même d'une ampleur incroyable et elle ne fait que commencer.
Et est-ce que vous pensez qu'elle menace l'existence de l'Union européenne ?
J'ai plus de mal avec ce genre de phrases qu'on a beaucoup entendues. Hein. Emmanuel Macron lui-même avait dit pendant les élections européennes, l'Europe n'a jamais été autant en danger. Bon, bah, on voit qu'en fait, un an plus tard, en fait, si, l'Europe peut être encore plus en danger. Alors, est-ce que ça menace l'édifice ? Je ne sais pas. Ce que disent pas mal d'intervenants avec lesquels on discute, c'est que s'il n'y a pas un pas qui est franchi là, elle risque une mort lente ou alors en tout cas une espèce de statu quo qui au bout d'un moment politiquement sera intenable.
Giuliano D'Ampoli, je vais vous poser la même question, mais on va aller un tout petit peu plus loin parce que on le sait bien, le grand mal qui fait souffrir cette Union européenne depuis longtemps, c'est cette fracture entre le Nord et le Sud. Or, de ce point de vue-là, on voit que les prévisions de la Commission sont assez préoccupantes sur ce point, puisqu'on nous dit on va avoir là une récession de 8%, un chômage qui frôle 10%, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que les pays qui vont être les plus touchés par cette récession, c'est les pays du Sud, c'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette fameuse fracture Nord-Sud continue de se creuser, et est-ce qu'elle ne va pas, là, maintenant, poser un problème fondamental, mortel ?
Oui, je pense qu'on a déjà vu ça au cours des dernières semaines. On a tendance à dire que l'Europe se développe à travers ces crises parce que pour les surmonter, elle active de nouveaux instruments et donc elle se développe. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment été le cas au cours des dernières années parce que c'est vrai que la crise des dettes et la crise grecque a poussé l'Europe à mettre au point de nouveaux instruments. Mais justement, la fracture et la méfiance dont vous parliez n'a fait que s'aggraver et la crise migratoire a beaucoup contribué à ça aussi. Donc j'ai peur que, surtout du point de vue émotionnel, hein, il y a vraiment deux aspects différents. Il y a la politique émotionnelle et théâtrale et il y a la politique de la substance. Alors, il est tout à fait possible que d'un point de vue substantiel, l'Europe réussisse à activer des instruments. Elle a au fond bougé assez rapidement. C'est une machine lente qui a commencé à bouger très rapidement à l'occasion de la crise du corona. Donc on peut avoir nourrir certains espoirs de ce point de vue-là. Mais d'un point de vue émotionnel, si vous voulez, l'impact de la crise a été dévastateur. Et aujourd'hui, si vous faites un sondage, par exemple en Italie, il y a des sondages terrifiants qui sortent et qui disent que les Italiens considèrent leurs principaux ennemis, les Français et les Allemands, ce qui est quand même assez frappant.
On reviendra évidemment sur le cas particulier de l'Italie, mais ce que vous dites me fait penser aussi à ce qui peut paraître secondaire, mais qui est très important. Il y a eu, par exemple, très récemment, l'INSERM qui a lancé un grand plan d'essais cliniques européens baptisé Discovery, et on pensait que ce programme allait évidemment être... que d'autres pays allaient le rejoindre, et en réalité, et notamment les pays très touchés, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, etc., et en fait, il n'en est rien. On s'est retrouvé quasiment tout seul. Je crois que seul le Luxembourg coopère et tous les autres, en réalité, ont rejoint un autre programme de l'OMS qui est baptisé Solidarity. Donc, on voit bien que, effectivement, cette solidarité, au-delà de la question de l'engagement financier qu'on va évoquer, évidemment, mais on n'arrive même pas sur ce point-là à se montrer solidaire. Clémentine Forissier, alors sur les outils, justement, sur le plan d'urgence qui a été décidé, alors c'est un plan d'urgence qui est très important, 540 milliards d'euros. On a, je vais les rappeler, hein, trois principales mesures. D'abord, on a un instrument de solidarité qu'on a baptisé SURE, S-U-R-E, qui est mis en œuvre par la Commission. On a là 100 milliards qui vont être utilisés sous forme de prêts, de mécanismes de chômage partiel décidés par les différents États. On a la Banque européenne d'investissement qui va permettre des prêts de long terme, c'est à peu près 200 milliards. Et puis on a un mécanisme européen de solidarité, le MES, qui est adapté évidemment à cette crise-là. Et là, on va avoir 240 milliards à peu près. Est-ce que tout cela, Clémentine Forissier, vous semble à la hauteur de l'enjeu ?
Alors, je vais répondre à votre question. Je voudrais juste revenir sur un point que mentionnait Giuliano D'Ampoli qui me semble fondamental et sur lequel je pense qu'aujourd'hui on a assez peu d'éléments. C'est sur la question de l'émotion. Ouais. C'est-à-dire que, et je vais rejoindre votre question. En fait, effectivement, il y a eu des gestes ou des absences de gestes symboliques du point de vue politique au début de la crise, notamment au moment où l'Italie se confine. Les Européens sont atones, les institutions européennes ne disent rien. Il a beaucoup été dit que finalement ça aurait pu être positif, ne serait-ce qu'en termes de symbolique, même si sur le fond des compétences les institutions européennes ne pouvaient pas à ce stade-là forcément agir. Et elles l'ont fait par la suite. Mais il y a eu une absence de voix, une absence de discours politique, de compassion qui a marqué les esprits, et notamment en Italie, contrairement à d'autres pays, qu'on l'a vu, les Russes, les Chinois, etc., qui parfois d'ailleurs, c'était de la propagande, ont réussi, eux, à marquer les esprits des Italiens, contrairement aux Européens. Et après, rattraper ça, c'est quasiment impossible. Enfin, en tout cas,
il y a quand même eu un discours assez fort d'Ursula von der Leyen, la commissaire européenne, quand même.
Elle a reconnu une certaine forme d'erreur, ce qui est rare, donc ça mérite d'être souligné. Sauf que, vous savez, c'est toujours pareil, une fois que la calomnie a eu lieu, en fait, on retient ça et on retient rarement les excuses derrière ou les erratums dans les journaux, etc. Donc ça c'est vraiment, je pense qu'un des principaux problèmes aujourd'hui, c'est celui-là. Après, il y en aura d'autres qu'on va évoquer. Pour revenir à ce que vous disiez, donc les Européens au début, ça a cafouillé. Et après, effectivement, il y a eu ce plan sur lequel au début, c'était un petit peu compliqué. Puis finalement, tout le monde s'est mis d'accord. Alors, c'est une sorte de plan de sauvetage. En utilisant en fait des outils qu'on avait déjà mis en place pendant les crises précédentes, et là-dessus les Européens ont réagi quand même relativement rapidement. Donc on peut quand même le saluer, mais c'est pas tout en fait. Ce plan de sauvetage, c'est en gros une certaine forme de prêt. Là, la question qui va se poser à l'avenir, c'est qu'il va falloir aller plus loin, parce qu'une fois qu'on sauve du marasme littéralement une partie de l'économie, pour vous donner un exemple, dans le tourisme, on discutait l'autre jour avec Thierry Breton, le commissaire européen, qui me disait non mais là l'enjeu, c'est de sauver 90% des entreprises du tourisme qui font moins de 10 salariés, quoi. Donc on est dans un moment d'urgence. Après, il va y avoir un moment où, une fois qu'on a empêché toutes ces entreprises là de couler, ou en tout cas un maximum, déjà il y aura quand même un chômage qui va grimper. Qu'est-ce qu'on fait après? Parce qu'après, pour que l'Europe puisse à nouveau rentrer dans la course, il va falloir investir aussi. Et c'est là-dessus qu'il y a tout
Il y a d'ailleurs un plan qui est en préparation. La Commission doit présenter un nouveau plan fin mai. Ça sera peut-être le 20 mai, ça sera peut-être un petit peu après. Mais on a de toute façon de nouvelles dispositions qui vont être amenées à être prises. Sur ce que vous disiez, Clémentine Forissier, je voudrais entendre Giuliano D'Ampoli. Parce que c'est vrai, l'Italie a été en Europe le premier pays à être fortement touché par le Covid. Et il y a eu très très vite chez les Italiens ce sentiment d'abandon. Est-ce qu'il est toujours là, ce sentiment d'abandon ? Est-ce qu'il a été un peu réparé ? Est-ce qu'on en veut toujours en Italie, à l'Union européenne, Giuliano D'Ampoli ?
Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un best-seller d'il y a quelques années, un best-seller américain d'un journaliste du New Yorker qui s'appelle Malcolm Gladwell. Et le livre s'appelait Blink, le pouvoir des premières impressions. Non? Et sur la force des premières impressions et la persistance. Et de ce point de vue-là, malheureusement, le blink, donc la première impression qu'ont eu les Italiens au moment de l'explosion de la crise a été une sensation de solitude absolue. Le discours de Mattarella, le président italien, dont vous avez passé un extrait en début d'émission, il a eu lieu dans un contexte, il parle très peu, Mattarella. Et là, ce soir-là, il avait décidé de parler en urgence parce que il venait d'y avoir la conférence de presse catastrophique de la présidente de la Banque Centrale Européenne qui avait en un premier temps, pratiquement dit que son rôle n'était pas celui de défendre la cohésion de la zone euro. Après, elle s'est vite rattrapée. La Banque centrale européenne a pris des actions très décisives. Mais encore une fois, la première impression, que ce soit les limites à l'exportation des matériels sanitaires, que ce soit la fermeture de frontières, que ce soit l'incapacité de même d'organiser une action purement symbolique à ce stade-là, hein, parce qu'il ne s'agissait la substance, évidemment, comme l'a dit Clémentine Forestier, elle arrive plus tard, mais sur le moment, il fallait il y avait la nécessité quand même de donner un symbole de solidarité. Et le seul chef de gouvernement européen qui l'ait fait a été paradoxalement le premier ministre d'Albanie, qui s'appelle Edi Rama, qui a fait un discours très fort en envoyant un avion avec 40 médecins à bord et un peu d'équipement. Et donc, ce n'était vraiment... Et du coup, par contre, il y a eu ces fameuses opérations chinoises et russes de propagande pure.
On y reviendra, Julien Houdin-Poli, sur la question de la Chine, parce qu'elle est très importante. Mais pour poursuivre un tout petit peu, est-ce que vous pensez justement que cette... Vous parliez de cette force de la première impression. Est-ce qu'elle a été forte au point de convaincre les Italiens qu'une sortie de l'Union européenne serait préférable pour eux? Pendant longtemps, les Italiens quand même étaient assez favorables à évidemment cette participation à ce projet-là. Et même d'aucuns du côté de l'extrême droite italienne avaient abandonné l'idée d'un Italexit parce qu'ils avaient réalisé que politiquement c'était trop coûteux. Je pense évidemment à Matteo Salvini. Est-ce que les choses pourraient changer? Et est-ce que finalement la puissance du camp d'une sortie de l'Union européenne en Italie pourrait être renforcée après cette crise?
Oui, elle a été très clairement renforcée au cours des derniers mois. Déjà après la crise financière et la crise des migrants, les chiffres avaient beaucoup baissé. Il y avait eu une montée du sentiment anti-européen en Italie, comme vous le disiez, pas au point d'avoir une majorité pour la sortie de la zone euro. Mais là, aujourd'hui, on voit dans les sondages qu'on est plus ou moins 50-50. Hein. Mmh. Donc la possibilité d'un basculement est tout à fait là. Et la rhétorique des dernières semaines de Matteo Salvini, elle repart plutôt dans cette direction-là aussi, parce qu'il sent bien que le vent est en train de changer encore une fois.
Clémentine Forissier, parlons un petit peu de dette et regardons ce que l'on peut faire en la matière du côté de l'Union européenne, parce qu'il y a une bataille politique très forte aujourd'hui en Europe pour savoir en gros quel outil on va utiliser pour lever de la dette. On a d'un côté les partisans des recovery bonds, c'est-à-dire des obligations de relance, qui est une option qui est défendue par Emmanuel Macron, et puis les partisans des corona bonds. Est-ce que, sans être peut-être trop technique, vous pouvez nous expliquer en quelques mots la différence entre ces deux outils, et surtout nous dire ce que tout cela révèle, ce que cette bataille nous révèle, les difficultés à organiser cette solidarité européenne. Et puis ensuite, on reviendra évidemment sur cette décision... de la Cour suprême allemande, qui demande quelques explications à la BCE à propos de sa politique monétaire de 2015 et qui pourrait constituer un obstacle. Mais d'abord, sur cette opposition-là, Clémentine Forissier.
Bon, en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que en gros, il y a... Parce que je ne sais pas si la distinction entre recovery et coronavirus est toujours d'actualité, en fait. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on est à un moment où, jusqu'à présent, on a fonctionné en aidant les États par le biais de prêts. L'idée, c'est que les pays de l'Union européenne garantissent l'argent levé sur les marchés, et donc ça permet d'avoir des taux d'intérêt bas et ça permet de prêter de l'argent aux États en difficulté. Jusqu'à présent, ce qui avait toujours eu lieu dans les crises précédentes, c'est que on prêtait de l'argent, mais en échange, on demandait des réformes aux États, parce que en fait, l'argent prêté, on considérait que c'était aussi lié dans la tête de certains pays, notamment les pays du nord de l'Europe, à une mauvaise gestion. Bon, là, on est dans une crise qui est quand même un peu différente, c'est que tout le monde est touché. c'est pas une crise qui est liée à la mauvaise gestion de tel ou tel. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on fait, alors que tout le monde est touché et certains pays beaucoup plus que d'autres, pour les sauver du marasme. Et aujourd'hui, je pense que il y a quand même une convergence plus forte qu'avant sur le fait que déjà on peut pas leur demander des conditions. Enfin, on peut pas leur prêter de l'argent avec des conditions derrière, parce qu'en fait c'est une crise pour laquelle personne ne peut rien et que les États seraient incapables d'y répondre.
Ce qui veut dire très concrètement qu'on va laisser une latitude très importante s'agissant du déficit. C'est ça que ça veut dire. Voilà.
Ça, de toute façon, depuis le départ, la Commission européenne a levé en fait les critères de déficit et les critères budgétaires en disant là, votre objectif, c'est de vous endetter pour sauver votre économie. Donc les 3% et tous les critères de Maastricht sont oubliés. La question des aides d'État, c'est pareil. Là-dessus, les institutions européennes en fait ont très vite mis en place, levé les contraintes pour permettre aux États individuellement de sauver leur économie. Après, la question, c'est collectivement, parce qu'en fait, on est dans un marché commun. Dans un marché intérieur où toutes les économies sont extrêmement interdépendantes. Donc, s'il y a un problème dans une usine automobile en Italie, ça peut avoir des répercussions très fortes sur l'industrie automobile allemande. Je veux dire, tout est lié. Et donc, la question, c'est sauve les autres pour te sauver toi-même, en fait. Et donc, aujourd'hui, on sait que si on en reste à simplement des prêts, on risque de ne pas résoudre le problème, de rester à un niveau d'aide qui est insuffisant. Et d'autre part, les États ne peuvent pas s'endetter ad vitam aeternam. Ça veut dire qu'il y a un moment où aujourd'hui les taux d'intérêt sont bas. Mais si jamais les taux d'intérêt commencent à un petit peu remonter, les Italiens par exemple, qui ont déjà une dette, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais qui peut aller jusqu'à environ 150% du PIB, ça va devenir absolument intenable et ils risquent d'avoir chez eux une grande partie de leur économie, d'avoir leur économie qui fait faillite, enfin qui est dans une situation extrêmement grave, et ça pourra avoir des répercussions sur l'économie allemande, sur l'économie française, enfin sur l'économie de tout le monde. Et donc la question c'est aujourd'hui qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'argent supplémentaire de ce fonds de relance, alors qui risque de passer par le budget européen, on pourra y revenir si vous voulez, l'argent de ce fonds de relance supplémentaire sur lequel les États sont en train de se mettre d'accord, ou pour l'instant c'est pas encore fait, est-ce que cet argent c'est uniquement des prêts ou est-ce que c'est des dons? En fait, la vraie question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que on est prêt en Europe à donner plus à ceux qui ont besoin de plus et à donner sans contrepartie, ou est-ce qu'on n'est pas prêt à ça? Là-dessus, ce qui est intéressant de voir, donc la Commission travaille sur une stratégie. Ce qui semble se dessiner aujourd'hui, ce serait d'augmenter en fait la contribution des États européens au budget de l'UE qui est planifié sur 7 ans, pour 2 ou 3 ans, par exemple, passer de 1,2% du RNB à 1,9%. Je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais en gros, c'est pour vous donner une idée. Et cet argent supplémentaire qui puisse servir de garantie pour lever de l'argent, pour permettre aux États justement de se relancer. Et la question, c'est comment les États doivent rembourser? Doivent-ils rembourser? Et il est vraisemblable, enfin en tout cas ce sur quoi travaille la Commission européenne, après est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord, je ne sais pas, qu'on arrive à un mix. C'est-à-dire d'un côté ce sera des prêts et peut-être que d'un côté ce sera un peu aussi des dons. Voilà. Et donc on est dans ce questionnement-là.
Et alors comment est-ce qu'on réagit du côté de l'Italie, Giuliano D'Ampoli? Est-ce que cette solution un peu intermédiaire, un peu hybride, convient au Conseil?
Mais évidemment, le problème en Italie, c'est que aujourd'hui, vous avez déjà au Parlement, de fait, une majorité assez anti-européenne. C'est-à-dire que les mouvements qui avaient gagné l'élection de 2018 étaient des mouvements qui remettaient en cause de façon assez fondamentale la participation de l'Italie à l'Union européenne. Donc il n'y avait pas que Salvini, il y a aussi à sa droite le mouvement de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni qui s'est beaucoup développé au cours des dernières semaines, et aujourd'hui ils sont autour dans les sondages autour de 15%. Et surtout, il y a au gouvernement le mouvement 5 étoiles, qui est le parti de majorité relative et qui est un parti très ambigu en termes d'engagement européen. Donc, le scénario politique en Italie est très compliqué, il est aggravé, comme je vous le disais, par une opinion publique qui aujourd'hui regarde de façon très sceptique et même hostile à l'Europe. Alors, après, ça, c'est encore une fois le niveau de la politique théâtrale, hein, qu'on a tendance à sous-estimer dans les chancelleries européennes, mais qui détermine les résultats des élections. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. D'un point de vue substantiel, il y a quand même une négociation un peu plus sérieuse qui est en train de se faire. Je pense que l'Italie sera de toute façon de forcer d'accepter la solution qui sortira de la délibération du Conseil européen. Elle acceptera à la fin, il y a énormément de polémiques en ce moment sur le mécanisme de stabilité européen, sur les premiers financements qui devraient servir à couvrir les dépenses médicales autour de 35 milliards. Il y a beaucoup de forces politiques en Italie qui poussent pour ne pas accepter ces fonds parce qu'ils seraient associés à des conditions humiliantes qui en réalité n'existent pas parce que la Commission a rendu, disons, a clarifié qu'il n'y aura pas de conditions associées à ces financements-là. Mais même sur ça, il y a en ce moment une polémique politique italienne très forte. Donc les poussées centrifuges sont très fortes. Après, encore une fois, les conditions du budget italien ne lui permettent pas de se passer de l'aide européenne. Donc, quelle qu'elle soit, elle sera finalement acceptée. Ouais. Mais elle risque quand même d'alimenter la défiance si elle n'est pas associée à une sensation d'un vrai effort de cohésion européenne.
Il y a, Giuliano D'Ampoli, évidemment, le rapport à l'Europe, mais il y a aussi les considérations internes. Vous évoquiez justement les rapports de force. Est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup changé, là, avec cette crise de Covid ? Je m'explique. Si on regarde un peu la popularité du président du Conseil, du chef du Conseil, Giuseppe Conte, visiblement, elle est excellente et son action a été relativement saluée. Hein, niveau de confiance qui a dépassé même les 60% d'opinion favorable, ce qui pourrait faire des envieux en Europe et même en France en particulier. Et dans le même temps, quand on regarde encore les popularités, on voit que celle d'un Salvini, par exemple, a chuté. On est aux alentours à peu près de 25%, alors que faut bien comprendre que la Lega obtenait l'année dernière quasiment 10 points de plus, 34% des suffrages aux élections européennes. Alors comment comprendre tout ça ? Un Giuseppe Conte, qui par ailleurs a été mis là un peu pour servir d'homme de paille, en tout cas pensait-on, il semble qu'il ait renforcé considérablement sa figure et son poids politique. Mais en tout cas, on l'avait mis là un peu parce qu'on avait trouvé, au bout de longues semaines de négociations, un équilibre, à peu près un accord entre la Lega et le mouvement 5 étoiles, mais on l'avait mis là un peu par hasard. On s'était dit, voilà, il va gérer ça, mais en réalité, ce sont d'autres, et évidemment Matteo Salvini notamment, qui gèrent la politique. Or, il est considérablement renforcé, et Salvini est visiblement plutôt affaibli. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors même qu'on a un homme qui est en plein exercice du pouvoir, et qui donc pourrait essuyer justement tout cela, et Matteo Salvini qui, lui, n'a pas de responsabilité, donc qui n'est pas abîmé par l'exercice du pouvoir. Je voudrais que vous nous éclairiez là sur ces rapports de force qui sont en train de changer.
Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément un peu illusoire et transitoire qui est justement le boost de popularité du chef du gouvernement. C'est un effet qu'on connaît et qui se produit pratiquement partout, et évidemment avec des chiffres qui peuvent être différents. Mais bon, pendant la crise, on se serre autour des autorités, du gouvernement qui tentent de rassurer. Et c'est vrai que cet effet-là a été.
Ça dépend
très fort,
des pays, Giuliano Domboli. Ça dépend.
Non, ça se produit partout, hein. Même ça s'est produit sur Trump, ça s'est produit sur, même sur les leaders les plus impopulaires, ça se produit. Après, l'effet varie, en effet. C'est-à-dire, il peut être plus fort. Il a été colossal par rapport à Angela Merkel, à d'autres chefs de gouvernement. Il est beaucoup plus faible en France et beaucoup plus précaire en France, mais il s'est produit quand même. Hein. Il y a eu des les chefs de gouvernement ont gagné des points au début de la crise partout. C'est un effet naturel qui se produit toujours pendant les crises, mais qui ne dure pas. Hein. Et là, en Italie, il est déjà en train de baisser, surtout parce que il y a, après la crise sanitaire, il y a justement une crise économique qui arrive.
Et Salvini va remonter mécaniquement?
Alors, là, le cas de Salvini est un peu différent, parce que c'est vrai que Salvini, pour ses limites personnelles de leadership, il a été affaibli, comme d'autres mouvements nationaux populistes européens au cours de la crise, justement, parce qu'on se sert autour des autorités, mais en plus... Salvini est très inconstant, il a changé de ligne beaucoup de fois, il a donné vraiment une sensation d'absence de leadership personnel qui a frappé, à mon avis, les esprits. Donc je ne pense pas qu'il va mécaniquement remonter, mais il y a encore une fois à sa droite une nouvelle leader, Giorgia Meloni, qui est presque au niveau de Salvini aujourd'hui, parce que justement elle est autour de 14-15%, et elle monte très rapidement. Son leadership a été renforcé par la crise, et encore une fois, l'opposition et la force des positions nationales souverainistes, à mon avis, sont malheureusement destinées à croître avec quand la crise économique s'aggravera, et les conséquences économiques de la fermeture seront plus évidentes.
Clémentine Forissier, d'accord, au-delà du cas de l'Italie, sur le fait que les populismes et les autoritarismes risquent d'être très renforcés par cette crise de la Covid, mais derrière les crises économiques et sociales à venir, hein, Clémentine Forissier. Où est-ce que ça vous inquiète le plus? On va parler de la Hongrie dans un instant.
C'est clairement un risque. Ouais, c'est clairement un risque. Je pense que c'est un risque qui est tout à fait... identifié par les gens qui nous gouvernent. Ça ne veut pas dire que les réponses apportées suffisent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans toutes les têtes, je pense, aussi bien en France qu'en Allemagne, qu'en Italie, d'une certaine mesure. Mais ce qui est paradoxal avec ce risque, c'est que, d'un côté, on pourrait dire, par exemple, en Allemagne, même si l'opinion publique allemande est en train de changer, mais du côté des pouvoirs publics, cette histoire justement de la mutualisation de la dette, l'argument qui est souvent pris par l'Allemagne, c'est de dire, mais de toute façon, l'opinion publique allemande est absolument opposée à cette idée de mutualisation de la dette, pour tout un tas de raisons. Sauf que si jamais on n'est pas plus solidaire, on ne procède pas à ces dons, et pas uniquement à des prêts qui risqueraient à terme, en fait, de rendre la situation, par exemple, de l'Italie encore plus difficile, on peut faire monter justement les populistes en Italie. Mais la réponse de l'Allemagne, c'est de dire oui, mais nous, on a peur de faire monter l'AFD si jamais on procède à ce changement de doctrine. Alors, je pense que les choses sont un petit peu en train d'évoluer, parce qu'on se rend compte notamment qu'il y avait un article dans le Washington Post récemment qui montrait que l'opinion publique allemande avait très peur d'un départ de l'Italie de la zone euro, était prête à franchir des pas qu'elle n'aurait pas fait jusqu'à présent si jamais justement ce risque était là. Et je pense que là on est dans une crise où si on ne s'entraide pas, on peut arriver à des situations vraiment très catastrophiques pour la zone euro. Et on voit même aussi que certains économistes allemands qui pendant les crises précédentes étaient extrêmement... orthodoxe, c'est-à-dire considérer qu'en fait les situations dans, par exemple en Grèce, étaient liées à une mauvaise gestion, là se rendent bien compte que c'est pas la même crise, en fait. Là c'est une crise qui touche absolument tout le monde. Ce qu'il faudrait pas, c'est que cette crise qui touche tout le monde se transforme en une crise asymétrique, en fait, qu'au bout d'un moment certains soient dans des situations extrêmement difficiles et d'autres s'en sortent mieux que les autres, parce que pour le marché intérieur dans lequel on évolue en Europe, ça pourrait être vraiment très compliqué.
Giuliano Domboli, un tout petit mot avant de passer à la Hongrie, mais ça c'est important, il me semble. Est-ce que ce qu'évoquait Clémentine Forissier, c'est-à-dire cette hypothèse d'une sortie de l'Italie de la zone euro, est-ce que ça pourrait être un argument utilisé par Giuseppe Conte, une forme de chantage, disons-le, pour obtenir des concessions de la part de l'Union européenne?
Ah oui, mais ça c'est un argument qui a utilisé. Voilà, ouais. Ça l'est déjà.
Je l'ai entendu.
Oui, tout à fait, ça l'est déjà.
On est avec vous, Giuliano D'Ampoli, Clémentine Forissier, dans cette nouvelle semaine de Culture Monde et inédite en direct depuis la maison de la radio en mode confinement géopolitique, le monde de l'après-Covid, solidarité ou repli, l'Europe au pied du mur, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Alors que l'Europe basculait dans le confinement, certains gouvernements ont cherché à consolider encore leur pouvoir, empiétant encore un peu plus sur les principes démocratiques et sur les libertés. C'est le cas notamment du côté de la Hongrie, puisque le 30 mars dernier, le Parlement hongrois, nominé par le Fidesz, a fait voter une loi octroyant à Viktor Orbán, son Premier ministre, de nouveaux pouvoirs, le tout sous couvert évidemment d'état d'urgence.
Je veux dire les choses très clairement. Contrairement aux allégations, ces mesures extraordinaires sont en lien avec la pandémie, sa prévention, son élimination et la prévention de toutes ses conséquences économiques préjudiciables. Une limite de temps ne peut simplement pas être décidée dans ce contexte, car il n'y en a pas.
Voilà, Monsieur Domotor, le secrétaire d'État aux affaires parlementaires hongrois. On va retrouver Florence Labruyère. Bonjour.
Bonjour.
Correspondante à Budapest pour Libération et pour Radio France, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Est-ce que cette loi qui a été passée en mars dernier, donc le 30 mars dernier au Parlement hongrois, est-ce que c'est seulement dû à cette crise sanitaire généralisée ou en réalité c'était un peu déjà plus ou moins dans les tuyaux et au fond cette séquence offre le prétexte parfait? Et puis ensuite on va voir ce qu'il y a exactement dans la loi, mais d'abord... les motivations.
Alors effectivement les motivations, bon, je ne sais pas si c'était dans les tuyaux, mais Viktor Orbán a le don de profiter de toutes les situations pour accroître ses pouvoirs. Et donc il faut dire aussi quand même que cette loi sur la prolongation de l'état d'urgence ressemble à beaucoup de lois qui ont été votées par des gouvernements européens. Dans le contenu, il n'y a pas énormément de différence, il y a beaucoup de limitations de liberté. La différence principale, c'est que cette loi donne à Viktor Orbán les pleins pouvoirs pour une durée illimitée. Il n'y a pas de limite de temps dans la loi. Voilà,
ça fait quand même une différence fondamentale, Florence Labruyère, quand même.
Tout à fait. Alors, Viktor Orbán a justifié ça en disant, écoutez, en disant notamment à l'opposition qui réclamait une date limite, il a dit « je ne peux pas vous donner de date limite parce que je ne sais pas quand l'épidémie va finir ». Et il a ajouté « j'ai autant de pouvoir que le président de la République française en temps de paix ». Alors, c'est pas tout à fait faux, parce que la Constitution française, son fameux article 16, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. Mais, en fait, est-ce qu'on peut juger sur pièce? Oui, on peut juger sur pièce, parce que Viktor Orbán est au pouvoir depuis 10 ans. Et on peut se demander si on peut vraiment lui faire confiance, parce que depuis 10 ans, il n'a pas cessé d'affaiblir la démocratie.
Oui, mais donc, à vous entendre, Florence Labruyère, finalement, il n'a pas plus de pouvoir que le président français, donc il n'y a pas vraiment de raison de crier au scandale, en réalité.
Alors, sauf qu'on peut déjà voir comment est appliquée cette loi.
Alors, on vous écoute, justement.
Voilà. Parce que il n'a pas chômé, il y a plus de 70 décrets qui ont été signés par Viktor Orbán. Et puis, le Parlement continue à fonctionner aussi, enfin, à fonctionner complètement dirigé et contrôlé par Viktor Orbán. Alors, je vais prendre quelques exemples concrets. L'un des premiers décrets a été de rendre le parking gratuit dans toutes les villes. Alors, a priori, ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport avec la pandémie. Et ça prive surtout les municipalités d'une importante source de revenus. Surtout Budapest. Or, la capitale est dirigée par un maire d'opposition depuis les municipales d'octobre dernier. Ces élections locales ont d'ailleurs marqué un tournant parce que pour la première fois, alors que le pays était complètement dominé par le parti de Viktor Orbán depuis des années, eh bien l'opposition a remporté une cinquantaine de villes sur les 100 plus grandes villes de Hongrie. Et finalement, tout montre que Viktor Orbán profite de la situation actuelle pour essayer d'affaiblir l'opposition. Je vous donne un autre exemple, un autre décret qui a été passé. Il y a une ville dans la banlieue de Budapest, une petite ville où se trouve une usine, l'usine Samsung, qui fabrique des piles. Cette entreprise est une très grosse entreprise parce qu'elle paye plus de 4 millions d'euros d'impôts locaux. Donc c'est une ressource extrêmement importante pour la ville, ça représente le tiers de son budget. Eh bien le gouvernement a décidé de retirer cette zone, d'en faire une zone économique municipale, une zone économique spéciale, et de la retirer du budget, de la tutelle de la ville. Voilà, donc c'est le but de la manœuvre est assez clair, c'est priver cette ville, qui est gérée par un maire d'opposition, d'une partie importante de ses ressources. Et des décrets comme ça, il y en a tous les jours, toutes les semaines.
Alors, on voit la manière dont il l'utilise contre sa propre opposition. Il y a un autre volet sur lequel on pourrait peut-être regarder ce qu'il fait précisément, parce que ça fait des années maintenant qu'Orban joue sur la fibre nationaliste et préconise le retour des frontières pour éviter une invasion étrangère qui est assez largement fantasmée quand on regarde la réalité des chiffres. Est-ce que cette crise du Covid est déjà peut-être et sera une opportunité pour Orban pour aller encore plus vers le rejet de l'immigration?
Alors là, ça n'a pas vraiment changé grand-chose, parce que depuis 5 ans, il mène une campagne farouchement hostile aux migrants. Les frontières sont déjà fermées.
Il ne peut pas faire plus.
Les camps de transit où, en théorie, les demandeurs d'asile peuvent demander l'asile légalement, déposer une demande en bonne et due forme, sont systématiquement rejetés. Leur dossier n'est même pas examiné. Ça change pas fondamentalement grand-chose.
Florence Labruyère, vous ne l'avez pas dit, mais évidemment que cet état d'urgence, il est justifié d'un point de vue sanitaire. La situation en Hongrie l'exige.
Oui, comme tous les gouvernements, bien sûr, la Hongrie semble, d'après les chiffres officiels, relativement épargnée par la pandémie par rapport à d'autres où on a moins de 400 morts. Mais peut-on faire confiance aux chiffres officiels qui sont mis en doute par de nombreux médecins? Mais cela dit, oui, voilà, les mesures sont un petit peu les mêmes que dans d'autres pays. Alors pourquoi est-ce que Viktor Orban ne veut pas poser de date limite à cet état d'urgence? Plusieurs commentateurs, députés d'opposition, pensent que Viktor Orban a en ligne de mire les élections législatives de 2022. Alors soit il veut faire traîner la situation jusqu'en 2022 pour essayer finalement d'empêcher l'opposition de faire campagne, parce que dans un état d'urgence comme aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de manifestation. L'état d'urgence en plus interdit toute élection en principe. Donc voilà, ça lui donne beaucoup plus de manœuvre, de marge de manœuvre pour modifier le calendrier électoral. Il pourrait peut-être aussi anticiper les élections. Voilà, c'est du moins ce que pense l'opposition. Tout est fait du point de vue de l'opposition pour réduire la marge de manœuvre de l'opposition. En amont des prochaines élections législatives.
Ouais, cette question du calendrier électoral, on la voit aussi présente du côté de la Pologne. Peut-être une petite réaction de la part de nos invités Giuliano Dampoli et Clémentine Forissier. On évoquait, Clémentine Forissier, la question de la montée des populismes, des autoritarismes en Europe. Voilà évidemment un exemple auquel on pense forcément. Que peut faire l'Europe face à tout ça? Il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, un discours assez fort de Guy Verhofstadt au Parlement européen, un discours très offensif à l'encontre d'Orban, qui était d'ailleurs présent ce jour-là. Il dénonçait son autoritarisme, il lui reprochait de conduire son pays dans un régime qui est en réalité pas si éloigné du régime qui avait cours en URSS. Le tout en profitant très allègrement des fonds européens, mais en rejetant évidemment ses valeurs fondamentales. Est-ce que l'Union européenne peut encore avoir une quelconque influence sur Viktor Orban et sur son glissement autoritaire? Clémentine Forissier?
Plusieurs choses. Déjà, juste sur l'article 16 et les comparaisons que Viktor Orban fait par rapport au pouvoir d'Emmanuel Macron, enfin, faut quand même remettre les choses en perspective. L'article 16 de la Constitution, faut des conditions hyper spécifiques pour le déclencher. Et là, même dans la crise qu'on vit, il n'a pas été déclenché. Donc, je pense qu'on peut quand même pas comparer la situation. ce qui est sûr, c'est que contre la Hongrie et puis là, plus récemment contre la Pologne, il y a déjà des procédures qui sont en cours. Mais on sent que les institutions européennes sont un petit peu démunies face à ça. Il existe des procédures techniques, je veux dire, un système, pour protéger l'État de droit, mais en fait qui ne va jamais au bout parce que in fine, il faut la majorité, enfin, il faut l'unanimité des pays de l'UE pour pouvoir véritablement, au bout du compte, condamner un État. Donc l'Union européenne, elle peut être dans le discours, mais elle a du mal à être dans les actes jusqu'au bout, en tout cas. Plus spécifiquement au Parlement européen, ce qui se passe sur la situation liée à la Hongrie, c'est que il y a 14 pays, les partis de droite présents au sein du PPE, dont fait partie le Fidesz, le parti d'Orban, 14 pays sont pour une exclusion du Fidesz du PPE. Ça, c'est quelque chose qui est sur la table depuis déjà plus d'un an.
Oui, mais qui n'aboutit jamais.
Mais qui n'a pas abouti. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que en France et en Allemagne, la CDU allemande et les LR français sont très mitigés sur ce sujet et n'ont pas pour le moment pris position. Donc c'est effectivement un peu inquiétant, mais l'UE pour le moment peut. Elle a des outils, mais qu'elle peut pas complètement utiliser jusqu'au bout. Donc, si elle peut pas les utiliser jusqu'au bout, c'est un peu comme si
ça
elle avait
pas grand-chose. En fait. Giuliano D'Ampoli, peut-être une réaction relativement courte, si vous le voulez bien, de sorte à ce qu'on puisse ensuite accueillir Barbara Loyer pour parler de l'Espagne, où là aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des tensions très fortes, mais des tensions intra-espagnoles, si je puis dire. Giuliano D'Ampoli.
Oui, je crois que le cas d'Orban est intéressant parce que on voit qu'il y a une dimension physique à la démocratie qui a été mise en suspens pendant ces mois et certains en profitent. C'est-à-dire, la démocratie, c'est aussi le droit justement de descendre, manifester dans les rues, puis d'exercer le droit de vote, etc. Et quand tout cela est suspendu, on peut en profiter. On a vu Poutine en Russie aussi pratiquement abolir un terme à sa présidence, donc il sera probablement président à vie. On a vu Orban s'attribuer ses pouvoirs sans limite temporelle. Il y aurait eu des manifestations, je pense, très importantes, sûrement en Hongrie et peut-être en Russie aussi. Et le fait d'être dans une période où ce n'est pas possible, ça rend possible des dessins un peu inquiétants. Ouais.
Merci infiniment en tout cas à Florence Labruyère d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondante à Budapest de Radio France et de Libération. Merci infiniment. On va prendre la direction de l'Espagne, qui est l'un des pays les plus touchés d'Europe, avec plus de 25 000 décès depuis le début de l'épidémie. Cette gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie révèle des tensions entre l'État central espagnol et les régions autonomes, dont le pouvoir de décision s'est vu réduit depuis l'instauration de l'état d'alarme par le président du gouvernement, Pedro Sánchez. C'était le 14 mars.
Como saben, mañana me reuniré por videoconferencia con el conjunto de presidentes y presidentas autonómicos.
Comme vous le savez, demain, je rencontre par visioconférence les présidents et présidentes des régions autonomes. Nous avons besoin d'unité, de coordination au plus haut niveau. Tous devront laisser leurs différences de côté pour se centrer sur une mission unique. Tout faire pour combattre le virus. Il n'y a pas de couleur politique, pas d'idéologie, pas de territoire. Nos citoyens sont le plus important.
Voilà, c'était donc Pedro Sánchez le 14 mars dernier. On accueille tout de suite Barbara Loyer, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, merci, enseignante et chercheuse à l'université Paris 8. Je voudrais qu'on fasse un petit bilan de la gestion sanitaire par Madrid, puisque en Espagne, la santé, c'est l'une des prérogatives des communautés autonomes, normalement, sauf que en décrétant cet état d'alarme, le gouvernement espagnol a récupéré les compétences de ces communautés. Quand on regarde le bilan sanitaire, on a envie de se dire que le bilan pour Madrid n'est pas terrible. Et c'est d'ailleurs exactement l'interprétation qu'en font les régions et notamment la porte-parole du gouvernement catalan qui a expliqué tout simplement que l'indépendance de la Catalogne aurait permis d'agir plus vite et plus efficacement. Elle a dit, je la cite, « Nous n'aurions pas eu autant de morts et tant de contaminés ». Est-ce qu'elle a raison ? Est-ce que finalement la crise sanitaire aurait été plus maîtrisée si la Catalogne avait été indépendante ou est-ce que finalement la gestion par Madrid était plutôt pertinente, Barbara Loyer ?
Alors, sur le bilan de la manière dont cette crise a été gérée, vous savez qu'il est contesté dans tous les pays d'Europe, tous les pays d'Europe, par toutes les populations européennes. Il se trouve qu'en effet, l'Espagne, est, à ce jour, et compte tenu des statistiques dont on dispose, le pays qui a le plus de morts par million d'habitants, donc ils sont quand même, on va dire, les champions d'un triste record. Mais néanmoins, ce qui a révélé, si vous voulez, cette crise partout en Europe, c'est quand même que les gouvernements ont géré l'impréparation. Essentiellement. Or, ce sont les communautés autonomes qui gèrent depuis 2002 et parfois depuis bien avant la santé. Et donc, en fait, votre question solidarité ou repli, elle se pose en Espagne depuis très longtemps et depuis spécialement depuis 15 ans et le démarrage de la crise en Catalogne. Et la crise sanitaire ne change rien à cette question solidarité ou repli. Les nationalistes catalans sont partis dans un processus d'indépendance qui ne tient compte ni de la crise sanitaire, ni d'ailleurs des crises climatiques en cours et à venir. Il se trouve donc que la santé, elle est complètement décentralisée. Et ce sont les budgets, les parlements qui votent le budget annuel pour la santé. C'est-à-dire, là, en fait, l'État transfère une quantité d'argent en fonction du vote du budget national, mais cet argent n'est pas fléché. Or, le gouvernement de la communauté autonome Catalogne est celui qui a fait les plus grandes coupes dans le budget de la santé depuis 2011. Entre 2009 et 2018, les Baléares, elles ont augmenter les dépenses de santé de 18%, la Catalogne les a baissées de 27%.
Oui, donc on a la réponse, Barbara Loyer. Ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, dire que l'indépendance aurait permis de limiter la casse, c'est un peu, c'est pas très adapté pour une région qui a largement réduit les budgets de la santé. Si on revient sur le plan purement politique, Barbara Loyer, il y a un certain nombre d'indépendantistes qui craignent que cette crise sanitaire n'offre à Madrid une formidable opportunité pour lancer un grand mouvement de recentralisation. Est-ce que cette crainte est justifiée ?
Je ne pense pas. Là, d'abord parce que ce gouvernement est très faible, il dépend des voix de beaucoup de gens. C'est un gouvernement en minorité. Et par exemple, pour avoir les 6 voix, pour voter la nouvelle situation d'urgence, ils avaient besoin des 6 voix du Parti Nationaliste Basque qui a donc obtenu que le déconfinement soit co-géré et que ce ne soit pas que le gouvernement qui décide quand on passe du grade 0 au grade 1 ou au grade 2 qui du coup a une incidence sur le nombre d'activités qui peuvent reprendre. Et ce qui, de certaine manière, peut aussi arranger le gouvernement central, puisqu'il ne sera pas entièrement responsable des nouvelles vagues, s'il y en a. Et il y a eu un débat assez âpre avec les autorités de la communauté autonome de Madrid, qui sont du Parti Populaire, mais qui est gérée par le Parti Populaire en coalition avec le Parti Centriste Ciudadanos, et le Parti Populaire voulait passer vraiment au grade 1 tout de suite, c'est-à-dire permettre au café d'ouvrir. Ciudadanos ne voulait pas et le gouvernement a tranché qu'il ne passait pas tout de suite en grade 1. Donc, si vous voulez, il y a une co-gestion, mais elle se construit un peu au fur et à mesure. Et en tout cas, avec le gouvernement de Madrid, là, il y a eu imposition du niveau 0, avec le soutien d'une partie des gouvernants de la communauté autonome de Madrid. Alors c'est sûr que le Parti nationaliste basque, lui, va pas se laisser imposer quoi que ce soit, puisque son intention est de se présenter aux élections en juillet. Les élections ont été repoussées. Elles devaient avoir lieu en avril, il me semble. Elles ont été repoussées. Et donc le but du Parti nationaliste basque, c'est vraiment d'avoir une majorité écrasante grâce à sa gestion du déconfinement, qui est beaucoup moins compliqué qu'à Madrid. Comme a dit la présidente de la communauté autonome de Madrid, la totalité de la population du Pays basque est dans les métros madrilènes tous les jours.
Oui, et
non,
puis,
c'est pas le même contexte.
Et bien sûr, et puis quand on regarde un peu les rapports de force entre Madrid et Barcelone en particulier, parce qu'évidemment la Catalogne c'est une question qui nous a beaucoup occupé ces derniers mois, il faut mettre dans la balance de ce rapport de force le fait que Pedro Sanchez a besoin en réalité de certains indépendantistes catalans, en l'occurrence la gauche indépendantiste et républicaine qui s'est abstenue pour permettre à Pedro Sanchez de devenir Premier ministre. Donc, d'une certaine manière, les deux se tiennent. En tout cas, on est obligé de coopérer en réalité, politiquement. En tout cas, l'avenir politique de Pedro Sanchez dépend aussi des Catalans, de certains indépendantistes catalans.
La crise sanitaire a un tout petit peu fait bouger les choses. Enfin, disons qu'à l'occasion de cette crise sanitaire, les choses ont un tout petit peu bougé, puisque le parti centriste Ciudadanos, qui a changé de président suite à leur résultat catastrophique aux dernières élections, vient d'apporter son soutien à Pedro Sanchez. Oh, il représente 10 députés aussi.
Donc il n'a plus besoin des indépendantistes catalans.
Il a avec eux, selon le pour ces questions sanitaires, il a reçu le soutien de Ciudadanos, qui rebat les cartes un peu pour le Parti populaire aussi, puisqu'il y avait la théorie des trois droites, donc Vox, Parti populaire et Ciudadanos contre toute la gauche. Là, du coup, ça rebat un petit peu les cartes. Mais après, ça, je ne sais pas comment ça va s'appliquer pour d'autres solutions. Je crois aussi que, si vous voulez, quand vous posez la question de la solidarité ou du repli, si on aborde la question de la solidarité à l'intérieur de l'État espagnol, en termes de financement par habitant, les régions les plus mal loties, là, c'est la communauté de Valence, l'Andalousie, Murcie, Castille, mais pas
la Catalogne.
Mais pas la Catalogne. Mmh. En termes de personnes qui sont au bord de la pauvreté ou de l'exclusion sociale, c'est la même chose. Ce sont les communautés du sud de l'Espagne. Ça représente 12 millions de personnes, plus de 4 millions de foyers, qui vont là prendre la crise de plein fouet. Donc, si vous voulez, la question de la solidarité, c'est une sorte de responsabilité mutuelle ou de devoir moral, mais à l'intérieur d'un groupe social ou à l'intérieur d'un territoire. Et donc la question, c'est à quelle échelle la solidarité devrait s'imposer sur une question comme ça. Et du coup, quand là, on a un peu l'Espagne au pied du mur, puisque les nationalistes catalans disent il faudrait qu'on soit tout seul, et là, on serait moins nombreux à mourir. La question, votre question, l'Europe au pied du mur, elle se pose pour l'Espagne. Mmh. Et la question que moi je me pose, c'est est-ce que la fragmentation de ces groupes sociaux qui se sentent des devoirs de solidarité entre eux, qui créent des liens obligatoires, on va dire, entre personnes, est-ce que cette fragmentation, dont l'Espagne est un des prototypes, elle fragilise aussi l'idée d'Union européenne?
Peut-être une dernière réaction, on arrive presque au terme de cette émission avec Clémentine Forestier et Giuliano D'Ampoli, et peut-être une question sur laquelle on pourrait évidemment travailler pendant des heures, mais qui est cette capacité ou non de transformation de l'Union européenne. Parce que pour espérer dépasser cette crise, il faudra que l'Europe se transforme pour se montrer plus solidaire, plus démocratique aussi, puisque c'est souvent l'une des critiques qu'on formule à son endroit. Il faut se transformer. Mais est-ce que cette Europe, Clémentine Forestier, a en réalité les moyens de se transformer et donc de répondre à cette crise du Covid et des autres crises qu'il va y avoir derrière? Est-ce qu'elle peut? Elle peut se réformer? Clémentine Forestier.
La vraie question qui se pose, c'est que est-ce que les opinions publiques sont capables de faire confiance à l'Union européenne pour ça, en fait. Parce qu'au fond du fond, la souveraineté, elle est entre les mains des citoyens, finalement. C'est eux qui votent. La difficulté face à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que, et c'est notamment le cas sur cette histoire de dons et de prêts qui nous anime, c'est comme depuis des dizaines d'années, l'Union européenne est souvent mise en opposition par les États qui la composent vis-à-vis de leur opinion publique. C'est Berlin ou c'est Bruxelles, mais il y a une sorte de confrontation qui se pose, alors qu'en fait, Bruxelles n'est que le fruit, finalement, de ce que les États ont bien voulu en faire. Ça fait que les opinions publiques sont dans une disposition d'esprit qui, aujourd'hui, n'est pas favorable, parce qu'ils se vivent dans une opposition avec l'Union européenne. Finalement, Emmanuel Macron, pendant sa campagne de présidentielle et à nouveau par la suite, avait essayé d'instiller cette idée de souveraineté européenne versus souveraineté nationale. nationale, comme si les deux étaient et devaient être complémentaires. Mais est-ce qu'il a réussi aujourd'hui à convaincre les Français? J'en suis pas persuadée du tout. Donc, je pense que le vrai enjeu, il est là. Et là-dessus, je suis pas...
pas confiante.
Parce que la situation est compliquée.
On aura l'occasion d'y revenir, en tout cas. Merci infiniment à vous. La notte giunta per noi è la nostra fine. Merci infiniment à Barbara Loyer qui était avec nous par téléphone et à nos deux invités, Giuliano D'Ampoli et Clémentine Forissier, qui nous ont accompagnés dans cette reprise de Culture Monde, Solidarité au repli, l'Europe au pied du mur. Demain, on parlera de la Chine. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table, qui est également de retour à la Maison de la Radio.